Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot Ligue 1 en France hier avec Nantes qui a battu Clermont 2-1. Lille et Brest ont fait match nul, 1-2. Et puis ce dimanche, le classico PSG-OM à Marseille, Laure Lemay pour Radio France Internationale.
Devant le centre d'entraînement de l'OM pour accueillir les joueurs, Stéphane est clairement impatient.
Celui-ci, c'est un match hors norme pour nous. Mais on mettra l'ambiance comme il le faudra. On attend un bon résultat de notre équipe et on va les pousser pour qu'ils aient la victoire.
Les groupes de supporters du Virage Sud, les South Winners et les Ultras, prévoient d'étendre pour la première fois plusieurs tifos en même temps, ces grandes voiles déployées dans les tribunes.
Voilà, pose bien.
Rachid Zerwal, vice-président des Winners.
On veut leur montrer qu'on est encore en vie. On a le sang chaud, on est méditerranéen, on a des grandes gueules. Tout supporter comme joueur qui rentreront dans ce stade, même les dirigeants, j'espère qu'ils auront la bave à la bouche, la rage marseillaise, il faut qu'ils la ressentent.
Et l'accueil du PSG ne se fera pas en douceur, surtout lorsqu'il s'agit de Léo Messi. Écoutez Gilda, ce supporter de génération en génération.
C'est impossible de le voir avec ce maillot-là et il va prendre cher comme jamais. C'est encore plus que narguer quelqu'un, quoi. Et notre haine sera à la mesure de notre amour pour l'Argentine et pour lui au final.
La victoire pour les Olympiens est vivement espérée mais incertaine car, on le rappelle, Marseille a remporté un seul des 23 derniers matchs contre le PSG.
On passe en Angleterre avec Chelsea, premier au classement, qui a écrasé Norwich, 7-0. Et puis la victoire de Manchester City, deuxième au classement, contre Brighton, 4-1. En Allemagne, la 9e journée marquée par la victoire du Bayern de Munich, premier au classement, contre Hoffenheim, 4-0. En Italie, 9e journée également avec l'AC Milan, premier au classement, qui gagne contre Bologne, 4-2. Au Portugal, 9e journée avec le Sporting Portugal, 2e, qui a battu Moreirense, 1-0. 1 milliard d'euros pour Ansu Fati, qui a signé avec le Barça jusqu'en 2027. Les précisions de Marie-Amélie Motte pour RFI.
Ansu Fati, le joyau du FC Barcelone, 18 ans, né en Guinée-Bissau et naturalisé espagnol. Il a prolongé son contrat avec le Barça jusqu'en 2027 et sa clause libératoire s'élève maintenant à 1 milliard d'euros. Fati récupère même le numéro 10 de Lionel Messi, parti à Paris. Fati, c'est l'avenir du Barça et il s'en est réjoui hier lors d'une conférence de presse.
J'ai toujours rêvé de réussir ici, de continuer à grandir dans ce club et heureusement, je peux continuer à le faire. Je suis très reconnaissant pour cela et je vais travailler plus dur chaque jour pour essayer de m'améliorer en tant que personne et en tant que joueur, donner au club ce qu'il attend de moi. J'ai peut-être reçu des offres de l'étranger, mais j'ai toujours été clair sur le fait que mon rêve était de grandir ici et d'être capable d'y réussir.
Ansu Fati et le Barça qui ont un rendez-vous très important dimanche, ce sera le Classico contre le Real.
Seko Fofana de Lens, élu meilleur joueur de septembre en Ligue 1 en France. Les précisions de Marie-Amélie Motte pour RFI.
Oui, c'est une belle récompense pour le milieu ivoirien du RC Lens. À 26 ans, il réalise un début de saison canon, comme son équipe, deuxième du championnat. Seko Fofana, indispensable au milieu pour ratisser, arracher les ballons et lancer les attaques. Il devance le Lyonnais Lucas Paqueta et le Niçois Amine Gouiri dans ce vote qui est organisé par le syndicat des joueurs. Et dimanche, contre Metz, Seko Fofana et Lens auront l'occasion de conforter leur deuxième place avant un choc face à Lyon la semaine prochaine.
Foot féminin, la Coupe du Monde, les qualifications de 2023, 11-0 vendredi pour la France contre l'Estonie, comme nous l'explique Raphaël Rennes pour RFI.
Un détour par Créteil au sud-est de Paris, la soirée parfaite pour l'équipe de France féminine de football. 11 buts marqués, 0 encaissés face à l'Estonie en qualification pour la Coupe du Monde 2023. Une troisième victoire en autant de rencontres pour les Bleus. Couplé à un match nul du Pays de Galles face à la Slovénie un partout, voilà qui permet aux Françaises d'être seules leaders de leur groupe Et la sélectionneuse tricolore Corinne Diacre, elle, elle retient...
les 3 points et on continue notre marche en avant vers la qualification pour la Coupe du Monde, tout simplement. La possession était tellement importante qu'on ne pouvait pas non plus concrétiser toutes nos actions, mais voilà, on est resté sérieuse, c'est l'essentiel.
Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football, au micro de nos confrères de W9. Le prochain match, ce sera mardi.
On passe au tennis avec ce focus sur Once Jabeur, la Tunisienne, et désormais 8e mondiale au classement WTA. Analyse de Eric Mamrut avec une invitée spéciale, Eric Mamrut pour RFI.
La joueuse de tennis tunisienne est devenue cette semaine la première femme issue d'un pays arabe à entrer dans le top 10 mondial. Grâce à sa récente demi-finale au prestigieux tournoi d'Indian Wells, Once Jabeur se retrouve en effet 8e au classement de la WTA. La joueuse tunisienne de 27 ans est une vraie pionnière dans son sport. Première femme arabe quart de finaliste en Grand Chelem, c'était l'an dernier en Australie et encore cet été à Wimbledon. Première à remporter un tournoi, un titre WTA à Birmingham en juin dernier, et donc ce cap du top 10 mondial désormais franchi avec brio. De quoi ravir sa devancière, son modèle, la joueuse tunisienne Selim Asfar, déjà une pionnière puisqu'elle avait été en 2001 la première femme arabe à entrer dans le top 100 mondial. Selim Asfar qui voit dans l'exploit d'Once Jabeur un message très puissant.
C'est tellement profond, c'est tellement riche, c'est tellement... C'est beaucoup plus qu'inspirant, même c'est un message quelque part qui change radicalement l'image non seulement peut-être de la femme arabe, mais c'est surtout aussi pour les pays arabes de se dire que ce soit homme ou femme, parce que ça change aussi la croyance qu'ont aussi les hommes en général, c'est que c'est complètement possible d'avoir une femme arabe dans les meilleurs au monde, dans les meilleurs sur cette planète. C'est une énorme fierté et c'est surtout une porte ouverte, je dis une porte, c'est une autoroute ouverte même pour les enfants, pour les jeunes filles, pour les petites filles, pour les petits garçons aussi. Et c'est une croyance quelque part, c'est une graine qui a été mise là dans l'esprit de tous ceux qui regardent, donc la plupart du monde arabe et de la Tunisie, et du monde en général d'ailleurs. C'est une graine qui a été mise, qu'elle le dit souvent d'ailleurs, que si elle le fait, c'est que c'est possible que ce soit fait, et ça commence toujours par là. Donc voilà.
C'est vrai que même chez les hommes, par le passé, il n'y a pas eu de joueur arabe dans le top 10. Hein. Le mieux classé, Younes El Aynaoui, avait atteint la 14e place mondiale en 2003 et 2004. Pourquoi ça ne s'était pas produit jusque-là auparavant ?
Il y a beaucoup de raisons, mais la raison pour moi principale, c'est que comme ça n'a jamais été fait, dans les croyances et dans le subconscient et dans l'esprit, il n'y a pas cette croyance et on sait très bien qu'on ne peut arriver à quelque chose que si on y croit vraiment. Ça commence quand même beaucoup par se dire « ça a déjà été fait, donc je peux le faire ». Et à partir de là, c'est vrai, ça fait vraiment boule de neige.
Pour expliquer cette progression d'Once Jabeur, qu'est-ce qui fait que dernièrement, elle a réussi à passer ce cap pour intégrer le top 10 ?
Je pense à la confiance en soi, elle a été très régulière pendant plusieurs années maintenant, c'est ça aussi qui est important, c'est que ça fait 2-3 ans maintenant que petit à petit, elle commence à prendre graduellement cette confiance, d'abord en allant de plus en plus loin sur les tournois, elle a commencé à gagner des matchs dans les tournois du Grand Chelem, ensuite elle a commencé à gagner des filles dans le top 50, dans le top 40, dans le top 30, de plus en plus dans le top 20, dans le top 10, elle a continué à faire ça de manière régulière sur 2-3 ans. Voilà, il y avait le côté mental sur lequel elle travaille beaucoup avec une thérapeute du sport qui est incroyable, Mélanie Maillard, et qui l'a fait énormément progresser. Elle travaille beaucoup physiquement aussi pour pouvoir tenir et enchaîner tous ses matchs pour arriver à faire des demi-finales, des finales, et ainsi de suite pour gagner plus de points. Et c'est là quand même la joueuse qui a joué le plus cette année. Et la confiance en soi. Donc c'est cette maturité, quelque part, de cette confiance et de cette expérience qui fait que... et qu'on arrive au top 10.
Et puis, à signaler que le Grand Prix de Formule 1, c'est ce dimanche aux États-Unis. Le Grand Prix de MotoGP, c'est ce dimanche en Italie. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.